rasseoir. Nous allons donc nous préparer à l'écoute de sa parole. Je voudrais demander à chacun de vous d'incliner sa tête très respectueusement, avec crainte, devant celui qui tient nos vies dans sa main, devant celui qui reste et demeure le propriétaire du souffle de vie qui nous anime. Devant lui, tout n'est que gloire, et devant lui, l'homme doit user de révérence. L'homme doit s'approcher avec crainte et respect, sachant que celui devant qui il se tient est celui qui l'a fait, qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Le moment est arrivé, Seigneur, où nous voulons te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Le moment est arrivé, ô Dieu, où nous voulons faire taire toute autre voix et n'avoir d'oreille qu'à ta voix et à ta voix seule. Le moment, Seigneur, est arrivé où nous voulons nous ouvrir à l'action de ton esprit au travers de ta parole. Merci pour ce privilège de pouvoir la méditer jour après jour. Ce privilège, Seigneur, de pouvoir être enseigné dans tes voies, telles que, Seigneur, nous les trouvons dans ta parole. Merci de nous aider à donner, Seigneur, à ta parole la priorité dans nos vies. Car c'est le seul moyen, ô Dieu, d'être à l'abri de toutes sortes d'hérésies qui sont véhiculées dans notre monde aujourd'hui. Parle-nous ce matin. Fais-nous du bien, ô Dieu, par la vérité de ta parole. Aide-nous à mieux te connaître au travers de ta parole pour mieux te servir. Ton serviteur n'est qu'un homme avec ses faiblesses, avec ses limites. Il a besoin de ta grâce, Seigneur, s'il te plaît, pose ta main sur lui, afin qu'il ne soit, ô Dieu, qu'un simple moyen, un moyen certes inutile, mais cependant un moyen entre tes mains pour l'édification de ton peuple, de ce peuple que tu aimes et que tu chéris de tout ton cœur, ce peuple pour lequel tu es monté volontairement sur ce bois infâme de la croix afin d'y mourir, ce peuple pour lequel tu as, Seigneur, un plan, des projets de paix et de bonheur pour ce peuple. Par respect pour ce peuple, s'il te plaît, pose ta main et rends ton serviteur digne de parler à ton peuple. Mais en même temps, Seigneur, aide ton peuple à être attentif. Seigneur, avoir une attention soutenue alors que ta parole sera prêchée. Donne à ton peuple l'intelligence du cœur, celle dont il a besoin pour pouvoir comprendre, saisir, Seigneur, ta parole, pour pouvoir l'assimiler, la mettre en pratique et vivre par elle. Car c'est dans la mesure où nous vivons, où nous marchons selon les prescrits de ta parole, qu'alors cette parole devient une réelle bénédiction pour nous. Aide-nous à être des mangeurs de ta parole, à être des hommes et des femmes qui éprouvent du plaisir, Seigneur, à nager dans la piscine de ta parole, des hommes et des femmes, ô Dieu, qui trouvent leur délice, Seigneur, ô Dieu, dans ta parole, qui trouvent leur bonheur dans l'obéissance à ta parole. Fais-nous du bien par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais une fois de plus revenir sur notre thème qui nous accompagne depuis déjà quelques dimanches, à savoir la nécessité de pouvoir sortir de cette période que nous avons qualifiée de période Ichabod pour entrer dans celle où nous expérimentons enfin le secours du Seigneur, la période Ebenezer, où Dieu se manifeste comme étant celui qui est fidèle, sur qui nous pouvons compter, celui qui a la puissance de nous délivrer de toute situation, quelle qu'elle soit. Amen. Ichabod ou Ebenezer, telle est donc une fois de plus la question que nous nous posons. Et pour avoir des réponses, car il n'y a pas une seule réponse, mais des réponses à cette question, donc, eh bien, nous allons une fois de plus nous tourner vers la parole de Dieu et relire ce passage de 1 Samuel chapitre 7, les 14 premiers versets. Nous lisons. Attendez un peu. Voilà. Nous lisons donc. Les hommes de Kiriat et Yarim vinrent et firent monter l'arche du Seigneur. Ils la transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche du Seigneur. Il s'était passé bien de jours. Depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriat Yarim, 20 années. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers le Seigneur. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers le Seigneur et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les Israélites ôtèrent donc du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent le Seigneur seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai le Seigneur pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur. Ils jeûnèrent en ce jour. C'est là qu'ils dirent, « Nous avons péché contre le Seigneur. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les ducs des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous au Seigneur, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, il cria au Seigneur pour Israël, et le Seigneur lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Grave erreur. En ce jour, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom de Eben-Ezer en disant, « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ichabod ou Ebenezer. Ça fait quelques dimanches, frères et sœurs, que nous sommes dans ce thème. Quelques dimanches où nous voyons comment il est possible, soit pour des choix ou à cause de choix que nous aurons fait en amont, ou soit simplement parce que d'autres ont fait des choix à notre place. Il est donc possible que nous puissions nous retrouver dans cette période Ichabod, qui est donc une période difficile, une période d'adversité, une période d'humiliation, une période où nous allons de revers en revers, une période, mes amis, où la souffrance est tout le temps présente, une période où nous nous posons toutes sortes de questions, où nous voulons chercher à comprendre pourquoi c'est Dieu que la Bible présente comme étant celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, c'est Dieu que la Bible nous révèle comme étant le grand triomphateur, celui qui est et reste et demeure le guerrier redoutable. Comment et pourquoi ces dieux-là, alors que la tempête souffle de plus en plus fort, alors qu'il se fait de plus en plus noir dans notre vie, dans notre existence, alors qu'il y a de plus en plus de nuages épais qui éclipsent ces dieux-là de nos vies ou dans nos vies, Comment ce Dieu-là n'agit pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui, période des questionnements, période où on essaye de comprendre pourquoi cela dure, même lorsqu'on le comprend. On se dit, mais Seigneur, c'est à cause de choix que j'ai fait, mais cependant tu es fidèle, cependant tu es miséricordieux, cependant je me suis repenti, qu'on m'a expliqué que ma route est de plus en plus parsemée de ronces, parsemée d'épines, qu'on m'a expliqué qu'il y a de plus en plus de cailloux qui me blessent, qu'on m'a expliqué que je n'arrive plus à avancer, je tourne en rond, car tout autour de moi, il n'y a que des montagnes qui m'empêchent de progresser, qui m'empêche de connaître un épanouissement entier. Oui, cette période, nous l'avons souligné, est une période que n'importe quel enfant de Dieu peut connaître dans sa marche avec lui. Alléluia. N'importe quel enfant, n'importe quel croyant, n'importe quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, n'importe qui, mes amis, eh bien, peut connaître ces moments, peut passer par cette période terrible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que alors que nous traversons cette période, nous faisons preuve de fidélité, nous continuons à faire confiance au Seigneur, à rester stable vis-à-vis de lui, loyal envers lui, mes amis, eh bien, cette période, quelle que soit sa durée, finira toujours par passer, et ce Dieu-là, ce Dieu guerrier redoutable, ce Dieu tout-puissant, finira par nous faire entrer dans cette période que nous appelons la période Ebenezer, où enfin, ce Dieu-là nous délivre de toutes choses, et de nouveau, il nous donne de retrouver ce que nous avions perdu autrefois. Alléluia. Et la fois dernière, nous nous sommes posé la question de savoir ce que Dieu attend de chacun de nous lorsque nous passons par cette période difficile, cette période trouble, cette période de confusion. Et nous avons donc répondu très clairement, et la Bible est là pour soutenir cette réponse, c'est que ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de chacun de nous, ce que nous puissions faire preuve de fidélité alors que nous passons par des moments difficiles. Alléluia. Que nous ne cherchons pas, mes amis, à nous soustraire de notre responsabilité de demeurer ferme. Que nous ne cherchons pas à utiliser des voies de tournée, des petits sentiers, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, ne pouvant plus supporter que la tempête souffle de plus en plus, beaucoup d'entre nous, eh bien, ont fini par sombrer dans la débrouillardise, ont voulu aider Dieu, voyez, à trouver la solution, ils ont voulu écourter ce temps-là, voyez, et ils ont fini, hélas, par se compromettre, et pas se mettre encore dans d'autres impasses à peine imaginables. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui restions fidèles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, nous l'avons vu. La Bible déclare que beaucoup d'hommes et de femmes proclament chacun leur bienveillance, leur bonté. Beaucoup d'entre nous mettent en évidence leur générosité, leur hospitalité, leur bonté, etc. Mais un homme fidèle, une femme fidèle, qui le trouvera? Qui la trouvera? Voyez, mes amis, ce que Dieu attend de nous. Non seulement dans le cadre de notre marche avec lui, dans le cadre de notre relation avec lui, mais aussi ce qu'il attend de chacun de nous, dans nos rapports mutuels, dans nos responsabilités, quelles qu'elles soient, ce que nous puissions toujours faire preuve de fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, Dieu veut que chacun de nous lui reste fidèle alors qu'il passe par des moments difficiles. Et nous avons donc examiné la vie de David. David a connu beaucoup de choses dans sa vie. Il a eu des moments de gloire, des moments de victoire, des moments d'élévation. Mais aussi des moments d'humiliation, des moments où il est passé par cette période Ichabod, voyez-vous, des moments où il a mordu la poussière. Lui, l'homme qui avait tout connu avec le Seigneur, encore jeune, sous la conduite du Saint-Esprit, encore jeune, eh bien, sous l'onction du Saint-Esprit, il était arrivé à terrasser que ce soit le lion, que ce soit l'ours, voyez-vous. Cet homme, eh bien, n'avait pas été formé dans les académies militaires de l'époque. Mais cependant, il a su manier l'épée. Cependant, il a eu à affronter des gens qui étaient mieux aguerris que lui, mieux expérimentés que lui. Pensez à sa confrontation avec Goliath. Il avait fini par l'achever, n'est-ce pas? Deux moments de victoire sur les Philistins, sur les Amalécites, sur toutes sortes de peuples de cette région. Lui, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a eu aussi des moments Ichabod dans sa marche avec le Seigneur. Il a tout connu. Il a frôlé la défaite. Mes amis, non seulement il a frôlé, mais il a connu. Il a connu l'humiliation. Voyez-vous? Il a été trahi par son propre fils. Celui qui était sorti de ses entrailles, voyez-vous, a fini par lever son talon contre lui, son fils Absalom. S'est rebellé, s'est révolté contre lui. Il a chassé son père du trône, voyez-vous. Et il s'en est emparé, il est monté sur le trône. David a été humilié. Et j'ai pris juste un épisode qui résume un tout petit peu cette période terrible, cette période de souffrance, cette période où l'homme de Dieu s'est posé toutes sortes de questions, cette période où il avait l'impression de vivre l'enfer sur terre, humilié. Le roi a quitté le trône, le grand David, pieds nus, mes amis, pieds nus, la tête couverte, en route vers le mont des Oliviers, en passant par la vallée du Cédron, qui sépare donc, comme je l'ai souligné la fois dernière, qui sépare Jérusalem du mont des Oliviers. Il a escaladé ce mont-là dans les larmes, mes amis, nu-pieds, dans l'humiliation. Comment est-ce possible? Eh oui, mes amis, tout est possible. C'est pourquoi ne te moque jamais de celui qui passe par la période Ichabod. Il ne faut pas tout de suite tirer la conclusion que cela lui arrive parce qu'il n'a pas suffisamment de foi. Voyez-vous? Nous devons faire attention à cet évangile, mes amis, qui présente le chrétien comme étant un homme ou une femme immunisé contre la souffrance. Un homme et une femme qui ne peut plus connaître une adversité, quelle qu'elle soit. Un homme qui est appelé à aller de gloire en gloire. Qui ne peut jamais être inquiété par qui que ce soit. Voyez-vous, c'est un évangile qui ressemble à tout, sauf à l'évangile du Christ. Alléluia. Ichabod est une réalité. Et David, humilié, voyez-vous, a fini par connaître encore d'autres situations difficiles. Devant le roi philistin Achish, le roi des Gathes, cet homme a simulé, nous l'avons vu la fois dernière, a simulé une folie. Il s'est fait passer pour un fou, parce qu'il avait peur de ce roi. Il avait peur que le roi ne puisse l'humilier davantage. Voyez, il a simulé la folie. Il a commencé à faire des extravagances devant les Philistins. Quelle humiliation, mes amis. Quelle humiliation. Lui dont on chantait Saül, Saül a frappé 5 000, David ses 10 000, pour vanter son héroïsme, pour vanter sa bravoure, sa vaillance, mes amis, son habileté à remporter des victoires. C'est David là, qui avait frappé ses 10 000, se retrouve en train de faire couler sa salive sur sa barbe, se faisant passer pour un fou. C'est une période, mes amis, où si nous ne faisons pas très attention, nous risquons d'agir comme David, d'assimiler la maladie, d'essayer d'attirer l'attention des gens par tous les moyens, voyez-vous, pour que les gens sachent que nous n'en pouvons plus. Voyez-vous, David. Mais ce qui est extraordinaire, comme nous l'avons vu, c'est qu'à travers cette période Ichabod, cet homme est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Cet homme est resté fidèle. C'est ainsi que dans une de ses prières, dans un de ce moment d'exaltation, alors qu'il était dans la présence du Seigneur, il nous a laissé cette parole extraordinaire où il dit, alors qu'il s'adresse au Seigneur, avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Alléluia. Quelle leçon pour nous, mes amis. Quelle vérité qui devrait nous accompagner. Nous accompagner à chaque instant de notre vie. Avec celui ou celle qui est fidèle, Dieu finit toujours par se montrer fidèle. Alléluia. Dieu finit toujours, mes amis, par nous manifester sa fidélité. Voyez-vous? Dieu finit toujours par nous démontrer de quoi il est donc capable. Et nous allons donc continuer avec cette question-là, ce que Dieu attend de nous, ce que nous lui soyons fidèles. Mais être fidèle, c'est une chose. Mais continuer à demeurer fidèle, grandir dans la fidélité, ça n'est une autre. Alléluia. Et ce matin, je voudrais revenir sur cette nécessité, non seulement de faire preuve de fidélité dans notre marche avec le Seigneur, lorsque nous passons par cette période Ichabod, mais aussi de grandir, de croître dans notre fidélité. N'oublions jamais que c'est notre fidélité dans cette période qui va amener ce Dieu fidèle à nous rencontrer et à honorer notre fidélité. Alléluia. Ben-Ezer et Ben-Ezer, mes amis, c'est le Dieu fidèle qui vient à notre rencontre pour honorer notre fidélité. Voyez-vous, c'est plus qu'un slogan, Ebenezer. C'est plus que les paroles d'un chant pour certains, mes amis. C'est une réalité que nous devons expérimenter. Nous devons arriver à proclamer que oui, jusqu'ici, le Seigneur nous assiste. Alléluia. Nous devons demeurer fidèles, gloire au Seigneur, mais nous devons croître, nous devons grandir dans la fidélité. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Car la fidélité est appelée à devenir une donnée en nous, une réalité qui va crescendo, qui croît. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un de nos patriarches dans la foi, à savoir Abraham. Nous allons essayer d'aller à la rencontre d'Abraham à un moment bien précis de sa vie, pour essayer de voir comment cet homme est resté fidèle à Dieu, et comment Dieu, dans sa fidélité, eh bien, l'a honoré, s'est révélé à lui comme étant la pierre, la véritable pierre du secours. Alléluia. Comment Abraham, dans cette période difficile, où il s'est posé des questions, dans cette période difficile, où il avait l'impression, eh bien, que Dieu, eh bien, lui avait tourné le dos, alors même qu'il lui avait donné une promesse, alors même qu'il lui avait demandé des choses. Mais Abraham va rester fidèle, mais va aussi grandir dans la fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est donc une dynamique. C'est donc quelque chose qui est appelé à croître, à grandir. Voyez? Et l'épisode de la vie d'Abraham qui nous intéresse, c'est celle où Dieu lui demande, au chapitre 22, de lui sacrifier de Genèse, de lui sacrifier, d'offrir son propre fils en holocauste, d'offrir son fils unique, le fils de la promesse. C'est par cette fils que le Seigneur lui avait dit qu'il allait lui susciter une postérité. Voyez-vous? Et c'est ce fils-là que le Seigneur lui demande de lui offrir. Dieu lui dit, Abraham, Abraham, Abraham répond. Abraham discerne que c'est Dieu qui l'appelle. Il est tout content d'entendre la voix de son Dieu qui l'a accompagné jusque-là. Celui qui lui avait fait partir de son pays d'origine vers le pays qu'il allait recevoir en héritage. C'est Dieu-là l'a appelé. Après l'avoir accompagné un peu partout, après lui avoir manifesté son amour, après lui avoir témoigné sa grâce d'une manière ou d'une autre, et là, une fois de plus, il appelle le patriarche. Et le patriarche répond. Et le Seigneur lui demande quelque chose de terrible, voyez-vous. Il lui demande de lui offrir son fils. Dieu lui dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria ou Morija, et là, offrez-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Prends ton fils. J'ai déjà eu à parler un tout petit peu de cette histoire. Si Dieu s'était arrêté à ça, en disant, prends ton fils et va me l'offrir, eh bien, Abraham serait sauté sur l'occasion en disant, Seigneur, tu sais combien je t'aime. Et il aurait pris qui? Ismaël. Parce qu'il savait que c'est par Isaac qu'il allait, eh bien, avoir la postérité promise. Voyez-vous? Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu a toujours été précis lorsqu'il nous donne sa parole. Alléluia. Dieu, mes amis, n'entretient jamais la confusion. Dieu est clair dans sa parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit en Jésus, eh bien, les promesses de Dieu sont oui et c'est clair. Il n'y a rien à redire. Il ne parle pas en rebut il ne joue pas au cache-cache avec nous quand il doit nous parler. Le Seigneur est clair. Donne-moi ton fils. Voyez-vous? Et il ajoute ton unique art. Voyez-vous? Le chant, en lui disant donne-moi ton fils, Abraham avait plusieurs choix. Voyez-vous? D'aller prendre Ismaël et petit, viens. Et puis d'aller offrir, Seigneur, merci. Hein? Peut-être il se serait dit, enfin, c'est peut-être une manière pour moi de résoudre un peu ce problème avec ma femme Sarah. Voyez? Seigneur, Dieu est bon. Je traîne avec moi cette culpabilité. Voyez-vous? Oui. Parce qu'à un moment, il y a eu des problèmes entre sa femme et la maman d'Ismaël Agar, n'est-ce pas, l'égyptienne. Voyez? Non. Le Seigneur est clair. Ton fils, ton unique. Ah. Et il ajoute, celui que tu aimes. Oh là là. Celui que tu aimes, mes amis. Celui vers qui est tourné ton cœur. En lui demandant ce fils-là, le Seigneur lui demandait sa propre vie. Voyez-vous? Car Isaac était plus que tout l'or et tout l'argent qu'il avait. N'oubliez pas qu'Abraham était un homme riche. Abraham pesait sur le plan économique, sur le plan social. Vous voyez? Mais le fils, et en l'occurrence le fils de la promesse, excusez-moi, valait plus que tout l'or, tout l'argent, tous les biens qu'il avait. Celui que tu aimes. Le patriarche n'a pas de choix. Il est devant un choix, mes amis. Il est devant une voie, ou du moins deux voies. Soit il choisit délibérément de ne pas prendre la voie que le Seigneur vient d'ouvrir devant lui. Mais c'est une voie sur laquelle il est appelé à verser de larmes, oui ou non. C'est une voie où il est appelé à avancer malgré lui. C'est une voie, mes amis, où son cœur est humilié. Où son cœur s'est dit, mais j'ai tout misé, je m'étais dit, enfin, cet enfant va prendre ma relève. Cet enfant va me susciter une postérité. Et la promesse du Seigneur s'accomplira. Voilà maintenant que je dois livrer un holocauste. Je vous l'avais dit, la caractéristique ou la singularité de l'Holocauste, c'est son sens grec, veut dire entièrement brûlé. C'est-à-dire l'Holocauste, c'était une offrande faite à Dieu et qui était entièrement brûlée. Il n'y avait rien qui devait revenir au sacrificateur ou au coupable. Vous voyez? Il y avait d'autres sacrifices, d'autres offrandes, où il y avait une partie qui était donnée au sacrificateur, l'autre partie, eh bien, l'offrant lui-même, le coupable pouvait prendre une partie de l'animal et aller manger. Mais lorsqu'il s'agissait de l'Holocauste, l'animal était entièrement consumé. Donc le Seigneur ne demande pas un doigt d'Isaac. Hein? Ça aurait été facile. Le vieux aurait simulé un accident. Il aurait arraché un doigt et dit, voilà Seigneur, c'est une partie de mon fils. Je le mets sur l'autel, pas du tout. Le Seigneur précise une offrande, un holocauste. Donc l'enfant devait être présenté entièrement sur l'autel du sacrifice. Voyez-vous, mes amis, c'était une voie d'humiliation où il devait son honneur, où tous ses, comment, tous ses plans pour la vie s'écroulaient, oui ou non? Eh oui, tout s'écroulait. Je vais l'offrir, c'est vrai. Le Nouveau Testament nous dira plus tard qu'il croyait que celui qui lui demandait cet enfant d'Holocauste avait le pouvoir de ressusciter le mort, car il est celui qui appelle à l'existence les choses non existantes. Oui, mais ça c'est comme a posteriori. Mais sur le champ, ça n'a pas été facile. Mais Abraham va choisir le chemin, mes amis, de l'humiliation, le chemin du sacrifice, le chemin des larmes. Il va prendre ce voie difficile. Et en entrant dans cette voie, mes amis, eh bien, c'est comme s'il entrait dans un trou noir où il devait avancer. Il a fait 3 jours. Pourriez-vous vous imaginer, mes amis, la situation du patriarche pendant 3 jours de marche quand il regardait Isaac, son petit fiston, lui qui représentait tout pour lui? Pendant 3 jours, il se disait, mais mon gamin va terminer en fumée sur un autel. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que je fais? Ichabod, où est finalement ta gloire quand tu me fais entrer dans une situation où je ne sais quoi faire? Certes, tu es capable de tout, mais en attendant, Seigneur, c'est dur pour moi. Mais Abraham était décidé d'obéir, et il va rester fidèle jusqu'au bout, alléluia. Et chaque jour qui passait, eh bien, était une occasion pour lui de grandir quelque part sur la voie de la fidélité, alléluia. Nous reviendrons sur ce concept, je vous l'avais dit, puisque le dimanche prochain, ça sera un dimanche un peu spécial, je reviendrai là-dessus, et ensemble nous allons voir le concept de Emouna ou Emet, 2 mots que nous traduisons en français, tantôt par fidélité, tantôt par vérité, mais ce sont 2 mots, mes amis, à géométrie variable, tellement riches sur le plan sémantique que, en français ou dans d'autres versions, nous sommes appelés à recourir à d'autres termes pour essayer de mettre en valeur tel ou tel autre aspect de la personne de Dieu. Voyez-vous? Et là, nous comprendrons, quand nous parlons de la fidélité de Dieu, nous parlons de la solidité de Dieu. Alléluia! Il est solide, donc on peut s'appuyer sur lui. Et nous verrons quelle est l'image matérielle qu'il y a derrière ce concept de fidélité d'après l'hébreu. Et là, nous réaliserons pourquoi eux-mêmes, les patriarches, tous hébreux, ont appris à marcher en comptant sur la fidélité de Dieu. Abraham avançait. Chaque jour qui passait était pour lui une occasion, des moments difficiles, des moments où il s'interrogeait jusqu'où, qu'est-ce qui allait se passer. Certes, je vais l'offrir, certes, il a la puissance de le ressusciter, mais comme il est souverain, il peut non pas le ressusciter. Abraham avance. Quand il arrive au pied de la montagne et qu'il voit au loin la montagne qui lui avait été, que Dieu lui avait indiqué, la montagne de Morija ou Moria, il demande à ses serviteurs de rester parce que lui et son fils allaient monter jusqu'au sommet pour adorer. Il laisse. Tant que ses serviteurs étaient là, il pouvait aussi se consoler. Vous savez, quand vous êtes entouré pendant la période du Kabod, des gens sont autour de vous, ils peuvent vous consoler, oui ou non? Ils peuvent vous encourager. Il y en a qui peuvent vous donner même une prophétie d'encouragement. C'est une bonne chose. Dieu m'a dit, persévère. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu a dit ceci, on peut recevoir une exhortation, un encouragement de la part de telle ou telle autre personne. Et puis arrive un moment où il doit se retrouver seul avec son fils, le fils qu'il va offrir. Et là, il commence à escalader la montagne. Alléluia. Il escalade la montagne. En escaladant la montagne, mes amis, nous pouvons voir là l'image d'une croissance dans la fidélité. Alléluia. Il ne fait pas le mouvement inverse. S'il a quitté son lieu d'habitation en route vers Morijah, c'était pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Nous le voyons monter, escalader la montagne de Morijah. Chaque pas fait en direction du sommet, eh bien, entraîner Dieu de l'autre côté de la montagne. Lui ne le savait pas, alléluia. À chaque fois qu'il montait, eh bien, pensant qu'il allait offrir son fils, Dieu de l'autre côté de la montagne montait avec le bélier. Alléluia. Il ne savait pas, mais Dieu sait toutes choses, alléluia. Il a persévéré, il a grandi dans cette fidélité. Il est allé jusqu'au bout, et quand il est arrivé au sommet, il a dressé l'autel, il a pris son fils, il a ligoté, il a mis sur l'autel dans les larmes, même si la Bible ne le dit pas. Ce n'était pas un psychopathe, Abraham. Voyez-vous? Pas du tout. C'était un homme normal, n'est-ce pas? Et on ne peut pas aimer son fils et en même temps le mettre sur un autel et vouloir l'égorger avec un sourire jusque-là. Non, c'est dans les larmes, c'est dans la souffrance. Voyez-vous? Mais il y a une chose qu'il ignorait. C'est qu'à chaque fois qu'il montait, eh bien, sa fidélité amenait Dieu à monter pour rencontrer sa fidélité. Et afin de l'honorer. Et au moment où il s'apprête à passer à l'acte, à égorger son fils, eh bien, quelque chose se passe. Alléluia. Dieu se révèle. Quelque chose se passe. Le Seigneur lui dit, n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien. Car maintenant je reconnais que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, alléluia, que tu es resté fidèle à moi, tu as été jusqu'au bout. Mes amis, la fidélité doit grandir jusqu'à ce qu'enfin le Seigneur qui est fidèle nous rencontre et honore notre fidélité. Alors là, nous entrons dans la période, dans l'expérience Ebenezer. Et là, sur la montagne, de nulle part, a surgi un bélier. Mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Abraham ne pouvait pas s'imaginer que sa fidélité, sa croissance dans la fidélité, amenait Dieu, ce Dieu qui est fidèle, à se lever de son trône et à venir pour voir à son besoin. Et c'est là, sur cette montagne, qu'il recevra cette révélation du Dieu d'Israël comme étant Adonai, Yireh, ce que nous avons traduit par Adonai, ou Seigneur, Yahvé Jireh. Voyez-vous? Yireh, il verra, il pourvoira. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, c'est une révélation qu'il a reçue au terme, mes amis, d'une démarche marquée par la loyauté, marqué par la fidélité envers celui qui lui avait demandé d'aller à Morijah sacrifier son fils. Et là, il a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Mon frère et ma sœur, quelle que soit ta situation, sache que quand tu grandis dans la fidélité, eh bien ta fidélité amène notre Dieu, qui s'appelle fidèle et véritable, à se lever de son trône et à nous rencontrer pour honorer notre fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce qui est extraordinaire, même d'ailleurs dans le Nouveau Testament, l'étymologie du mot qu'on a traduit par fidélité et foi, c'est la même étymologie. Voyez-vous? Et nous reviendrons là-dessus pour parler davantage de ce concept de fidélité. Alléluia. Abraham a grandi dans la fidélité. Abraham est allé jusqu'au terme. Mes amis, de son obéissance. Et là, le Dieu fidèle va honorer sa fidélité en se révélant lui comme étant celui qui voit et qui pourvoit. Alléluia. Le bélier est là et Abraham est presque surpris. Et là, il réalise que lorsqu'on obéit, lorsqu'on persévère, lorsqu'on demeure fidèle au Seigneur, on finit toujours par expérimenter un miracle, quel qu'il soit. Alléluia. Mes amis, nous devons certes demeurer fidèles, mais nous devons grandir dans la fidélité. Alléluia. C'est-à-dire, de nouvelles situations se présenteront alors que nous sommes dans cette période d'Ikabod. Continuons à demeurer fidèles. Ne disons pas, oui, mais je n'en peux plus. Même mes offrandes, ce n'est plus possible de les donner. Même mes dîmes, pas du tout, mes amis. Continuons à grandir. Allons de fidélité en fidélité. Et notre fidélité amènera le Dieu fidèle à venir nous rencontrer dans nos besoins. Et lorsque lui se lève, le ciel s'ouvre. C'est ce qui est arrivé à Étienne. Lui aussi a été fidèle jusqu'au bout. Lui, le premier martyr chrétien dont la Bible nous parle. Le premier sang qui a coulé là, en terre d'Israël, a été celui d'Étienne. Voyez-vous? Mais Étienne est resté fidèle jusqu'au bout. Étienne ne s'est pas relâché. On l'a pris parce qu'il parlait de Jésus, parce qu'il témoignait de la parole de vérité. Il a été pris, mes amis, et il va être lapidé. Pendant qu'on lui jetait des pierres, Étienne est resté fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Il aurait pu dire arrêtez à la deuxième ou à la troisième pierre. S'il vous plaît, arrêtez. Maintenant, c'est fini. Je tourne le dos à Jésus et je retourne à la loi de Moïse. Pas du tout. Étienne est resté fidèle jusqu'au bout. Et la Bible nous dit, première pierre, deuxième pierre, cet homme est resté fidèle. Il a continué à rester fidèle. Il est allé jusqu'au terme de sa fidélité. Et là, mes amis, sa fidélité, sa persévérance dans la fidélité va donc amener le Seigneur à se lever de son trône, à ouvrir les cieux pour rassurer son serviteur qu'il était là avec lui et qu'il l'attendait dans la gloire. Alléluia. C'est alors que les pierres venaient de partout, alors qu'on se serait attendu à ce qu'il puisse jeter toutes sortes d'anathèmes sur ses persécuteurs, toutes sortes de malédictions, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il demande à Dieu d'envoyer le feu et de brûler tout cela, pas du tout. Au contraire, il est serein. Et il dit ceci, voici, je vois les cieux ouverts. Et Jésus, le Fils de Dieu, debout à la droite du Père. Amen. La fidélité, la persévérance d'Étienne va amener Jésus. Lui qui est assis à la droite de la majesté divine. Lui qui intercède pour nous. Lorsque, mes amis, son serviteur, eh bien, continue à lui manifester de la fidélité, persévère, à un moment, la fidélité d'Étienne fait lever le Seigneur de son trône et le Seigneur ouvre les cieux et cette vision extraordinaire, mes amis, va remplir de paix son serviteur. Il sait qu'il n'est pas seul, que là il y a son sauveur qui l'attend. Alléluia. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que parmi les gens qui étaient là, il y avait un certain Saul de Tarse. Vous voyez, celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Il était là pendant qu'on lapidait Étienne. Il a vu l'attitude de cet homme. Il a entendu cet homme dire, je vois Jésus debout à la droite du Père, de Dieu. Et plus tard, cet homme se convertira à son tour. Voyez, quelquefois, lorsque nous regardons la conversion de Saul de Tarse, nous allons tout de suite au chapitre 9 des Actes, sur le chemin de Damas. Certes, mais nous oublions une chose, que le Seigneur commençait déjà à l'appeler à partir de ce moment-là. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Étienne, eh bien, aurait pu être sauvé, délivré par le Seigneur, oui ou non. Le Seigneur aurait pu par un miracle prendre Étienne et le faire disparaître. Le prendre de là où il était et puis l'amener dans une autre ville.
il a fait avec Philippe, oui ou non? Quand Philippe a prêché la parole à l'eunuque éthiopien, à un certain moment, après que l'eunuque ait été baptisé, etc., la Bible nous dit que Philippe dit, il disparut parce que le Seigneur le prit. Il disparut. Mais c'est le même Jésus aurait pu faire un miracle. Mais il a un plan, mes amis. Pour Étienne, le Ichabod l'amenait dans la gloire éternelle. Alléluia. Quand il est sorti de cette période, c'était pour se retrouver dans les bras du Seigneur. Et croyez-moi, il n'y a pas de plus grande gloire que celle-là. Lorsqu'on est persécuté à cause de Jésus, lorsque on meurt à cause de Jésus, croyez-moi, mes amis, le ciel tout entier attend ceux qui meurent au nom du roi des rois, au nom du Seigneur des seigneurs. Ceux-là, mes amis, sont accueillis, je ne sais pas comment, mais la seule vision, la seule expérience d'Étienne nous montre, mes amis, que c'est une grande gloire que de pouvoir être persécuté au nom de Jésus et que de mourir en son nom. Lui-même attend ses enfants qui meurent. Étienne. Voyez-vous, c'est notre fidélité qui amène le Seigneur à se lever, voyez-vous, à ouvrir les cieux et à venir à notre secours. Plus nous grandissons dans la fidélité, plus nous croissons dans la fidélité, plus, mes amis, notre fidélité, eh bien, amène celui qui s'appelle fidèle et véritable à venir à notre secours et à se révéler comme étant la pierre du secours, à savoir Ebenezer. Amen. Avant de terminer, je voudrais laisser cette vision que nous trouvons dans la parole de Dieu, la laisser à chacun de nous et encourager chacun de nous qui passe par cette période Ichabod à persévérer, aller jusqu'au bout. Amener chacun de nous à réaliser que chaque pas fait dans la direction de la volonté de Dieu, chaque acte de fidélité manifesté, eh bien, amène le Seigneur à s'approcher de nous. Plus nous grandissons, nous croissons dans la fidélité, plus, mes amis, notre fidélité amène le Seigneur à s'approcher de nous. Alléluia. À ouvrir les cieux. Nous trouvons cette image, cette vision dans le livre de l'Apocalypse. Mes amis, où nous assistons à une ouverture du ciel. Et la Bible nous dit, le ciel s'est ouvert. Certes, ça nous parle des événements eschatologiques, des événements qui prendront place, eh bien, dans cette période de l'histoire qu'on appelle la fin des temps. Mais celui qui va agir à la fin des temps, celui qui va écrire la dernière page de l'histoire de l'humanité, est aussi celui qui est avec nous aujourd'hui, oui ou non? Et celui qui avait ouvert le ciel lorsque son serviteur Étienne était lapidé, celui qui avait ouvert les cieux dans la chambre haute pour permettre à son esprit de descendre sur le 120, est aussi celui qui ouvre les cieux à chaque fois, mes amis, que son peuple, ses enfants, lui restent fidèles, demeurent dans la fidélité, grandissent dans sa fidélité. Alléluia. Et alors la Bible nous dit que l'apôtre Jean, sur cette île de Patmos, où il avait été contraint à cause de son témoignage vis-à-vis du Seigneur, contraint à l'exil, il va y voir beaucoup de choses, mais à un certain moment, lui-même Jean nous dit qu'il voit le ciel ouvert. Et cette fois-ci, mes amis, il y a un cheval blanc qui apparaît. Et ce cheval blanc est monté par quelqu'un d'extraordinaire. Et ce quelqu'un-là s'appelle fidèle et véritable. Voyez-vous, mes amis, où notre fidélité amène le Seigneur. Et celui-là, sur son cheval blanc, eh bien, Jean nous dit que derrière lui, suivent les armées du ciel. Alléluia. Les armées du ciel sont derrière lui. Il est sur son cheval blanc. Il est prêt pour la bataille. Il est prêt pour le combat. Il vient pour apporter la victoire à ses enfants. Alléluia. Et là, sur son cheval blanc, de manière glorieuse, il avance. Alléluia. De gloire en gloire. La Bible nous dit qui ses yeux sont comme une flamme de feu. Alléluia. Il est revêtu d'un manteau couvert de sang. Ne l'ont-ils pas vaincu à cause du sang de l'agneau? Son manteau est revêtu de sang. Il a sur sa tête plusieurs diadèmes. Et de sa bouche sort une paix tranchante. Alléluia. Et sur son manteau et sur sa cuisse est écrit un nom extraordinaire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mes amis, voilà où notre fidélité conduit Jésus à sortir de son ciel de gloire, à monter sur son cheval de bataille et à venir au secours de son peuple qui pleure. Alléluia. Mon frère et ma sœur, prie, sois fidèle jusqu'à ce que lui ouvre les cieux, jusqu'à ce que celui qui monte le cheval blanc, celui qui s'appelle fidèle et véritable, vienne honorer ta fidélité. Et là, tu vas vivre Ebenezer. Et là, tu vas voir de quoi il est capable. Alléluia. Place ta confiance en lui. Lui, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est notre fidélité, mes amis, qui amène le Seigneur à ouvrir les cieux et à nous manifester sa fidélité. Alors, persévère. Ne tourne pas de regards inquiets. Ne te laisse pas impressionner par les épreuves. Les gens peuvent se moquer de toi. Eh bien, ils se sont moqués même de lui, Jésus. Sur la croix, il y en a qui disaient, « Eh oui, il a sauvé les uns, il a guéri les autres, il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. Mais qu'il descende de la croix, alors nous croirons en lui. » Voyez-vous, ils l'ont humilié, ils l'ont insulté, ce n'est pas un problème. Continue à persévérer. Jusqu'à ce que celui qui est assis sur son trône se lève, monte sur son cheval blanc, ouvre les cieux et vienne à ton secours. Et quand il arrive, il n'y a personne qui va lui résister. Mes amis, toute l'armée du ciel est au service d'une seule personne, est au service d'un seul nom. Voulons-nous que l'armée du ciel soit de notre côté? Alors cherchons celui qui est assis sur le trône. N'essayons pas d'attirer les anges, afin que les anges marchent avec nous. N'essayons pas de nous attirer la faveur des archanges, pas du tout. Les armées célestes sont au service d'un seul, Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Celui que nous devons prier, celui que nous devons chercher, arrêtez alors de vous battre pour défendre votre prophète. Il y a des gens qui passent toute leur vie en essayant de justifier que leur pasteur est le plus grand pasteur du monde, que leur prophète est le vrai prophète. Non, je n'ai que faire de tout cela. Dieu n'a que faire de tout cela. C'est que Dieu attend de nous, que nous cherchions celui qui est assis sur le cheval blanc, Jésus de Nazareth. C'est celui-là et lui seul dont nous avons besoin. Et lui qui est fidèle et véritable, si nous persévérons dans la fidélité, quelle que soit la noirceur, l'obscurité de notre période Ichabod, quelle que soit la durée, quelles que soient les épines qui nous blessent, quelles que soient les colibés que nous recevons de partout, quelle que soit l'humiliation, lorsque son temps arrive, lorsque le moment arrive, mes amis, il se lève de son trône, il déchire les cieux, il monte sur son cheval blanc et il vient à notre secours. Alors là, nous levons nos yeux, nous oublions par où nous sommes passés. Et là, nous proclamons jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais vous demander de vous lever. Chacun connaît où il en est par rapport à ce Seigneur. Tu passes peut-être par des moments difficiles. C'est pour toi le Ichabod. Eh bien, je voudrais te donner l'occasion de crier ce matin à ce Dieu qui est fidèle, afin qu'il te donne la force de lui demeurer fidèle. Car c'est ta fidélité qui amènera ce Dieu fidèle et véritable à venir te rejoindre là où tu es. Alléluia. Alors, de ta situation difficile, crie à lui. Dans ta détresse, eh bien, je voudrais te donner l'occasion de crier à lui, de le louer, de l'adorer, de dire, Seigneur, aide-moi à tenir bon, car c'est de toi que me viendra le secours. Tu es le seul qui puisse me faire sortir de cette période Ichabod pour me faire entrer dans l'expérience Ebenezer. Alors louons le Seigneur, adorons-le, frères et sœurs, implorons sa grâce, louons-le, lui le fidèle et véritable. Oh, que Dieu soit béni, alléluia. Oh, merci. Merci Seigneur. À qui d'autre irions-nous? C'est toi le fidèle. C'est toi le véritable. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. S'il te plaît, déchire les cieux et viens à la rencontre de chacun de nous. S'il te plaît, oh Dieu, viens. Viens à notre secours. Viens nous faire du bien. Viens répandre ta grâce. Oh, alléluia. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, alléluia. Déchire les cieux et parais dans ta gloire. Afin que nos ennemis soient confondus. Afin que nos adversaires mordent de la poussière. Oh, le Dieu Ebenezer, viens à notre secours. Alléluia. Merveilleux Sauveur, déchire les cieux. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Maître. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous allons garder un moment de silence tout en demeurant dans cette attitude de recueillement. Frères et sœurs, le Seigneur reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là voudrait ouvrir les cieux au-dessus de certaines vies ce matin. Ce Dieu-là voudrait faire sortir certains d'entre nous de leur période Ichabod. Ce Dieu-là est capable, en cet instant, de dire simplement un mot. Et les cieux vont se déchirer. Et lui va paraître dans sa gloire. Et lui va venir à ton secours. Alors, mon frère et ma sœur, saisis la main qu'il te tend, alléluia. Toi qui étais sur le plan de te compromettre, car n'en pouvant plus, une autre occasion s'est présentée. Mais ce matin, il te dit, arrête, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. En son temps, il viendra à ton secours. En attendant, eh bien, continue à persévérer, à grandir dans ta fidélité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider à persévérer dans cette période Ichabod, en ayant nos regards fixés sur toi. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous sommes dans cette espèce de trou noir, nous avons même des difficultés à réaliser que tu es là devant nous. Puisque, Seigneur, nous n'arrivons pas à voir plus loin que le bout de notre nez. Mais cependant, toi, notre Rédempteur, tu es vivant. Toi, notre Rédempteur, tu tiens le monde entier dans ta main. Toi, notre Rédempteur, tu restes celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Merci, ô Dieu, de continuer à soutenir tous ceux qui ont besoin d'être soutenus, d'assister ceux qui ont besoin d'être assistés. Merci, ô Dieu, Seigneur, de venir maintenant à l'aide de ceux qui doivent sortir de cette situation pour entrer dans l'expérience Ebenezer. Ô Dieu, merci. Merci de nous aider à te rester fidèles, mais de nous aider à grandir. Car plus nous grandirons dans la fidélité, et bien plus, ô Dieu, notre fidélité te fera lever de ton trône et t'amènera dans ta fidélité à nous rencontrer et à honorer notre fidélité. Et ainsi, à nous entraîner, à nous conduire dans cette expérience d'Ebenezer. Merci pour tout, Maître. Merci, Seigneur.